Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 27 décembre 2019. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Au 45e vendredi de contestation en Algérie, la rue est partagée entre les plus déterminés et les partisans du dialogue. Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ont convenu qu'ils rejetaient l'exploitation étrangère du conflit en Libye, alors que la Turquie veut envoyer des troupes dans le pays. La France a convoqué l'ambassadeur d'Iran pour dénoncer l'emprisonnement de deux universitaires. La Russie, la Chine et l'Iran ont débuté des exercices navals conjoints dans l'océan Indien et le golfe d'Oman. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Le groupe extrémiste État islamique en Afrique de l'Ouest a diffusé une vidéo montrant l'exécution de 11 hommes présentés comme des chrétiens dans le nord-est du Nigeria. Un homme au visage masqué annonce que ces hommes ont été exécutés pour venger la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi lors d'une intervention américaine en octobre en Syrie. Une précédente vidéo montrait les captifs appelant l'association chrétienne du Nigeria et le président Muhammadu Buhari à intervenir pour les sauver. En Centrafrique, de nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants mercredi et jeudi ont coûté la vie à au moins 30 personnes au PK5 à Bangui. 33 corps ont été apportés à la mosquée Ali Babolo, a affirmé l'imam Awad al-Karim, selon lequel les commerçants ont pris les armes pour s'opposer à la taxation imposée par les groupes d'autodéfense qui règnent dans le quartier. Une source sécuritaire évoque au moins 30 morts, tandis que la Croix-Rouge centrafricaine établit un bilan de 33 morts. Ouverture à Brazzaville du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail au pouvoir, avec en ligne de mire l'élection présidentielle de 2021, des milliers de membres et militants venus de toutes les régions du pays et également d'Europe prennent part aux travaux qui se poursuivront jusqu'à lundi. Des représentants des partis communistes chinois et cubains, du mouvement populaire pour la libération de l'Angola ou encore du Front patriotique rwandais sont au rendez-vous. Le secrétaire général sortant du PCT, Pierre Ngolo, a exhorté ses camarades à la discipline et à travailler pour le bien-être des Congolais. 45e vendredi de contestation en Algérie, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues. Toutefois, moins nombreuses que d'habitude, le point avec Abdourahmane Dia.
Comme chaque vendredi, la mobilisation a commencé juste après la fin de la grande prière hebdomadaire. Toutefois, elle semblait l'une des plus faibles depuis le début du Chirac, le mouvement populaire inédit et massif de contestation pacifique du régime, lancé le 22 février. Le nouveau président, qui est entré en fonction le 19 décembre, vit donc son deuxième vendredi de manifestation. Les manifestants interrogés ont affiché une certaine colère, mais aussi de la détermination à poursuivre le mouvement. Nous, on est là, on continue le combat, témoigne Hossine, fonctionnaire de 50 ans dans le cortège où sont brandis de nombreux portraits de Ramdan Abane, dirigeant politique historique du Front de Libération Nationale, assassiné il y a 72 ans jour pour jour. Ce matin, bien avant la manifestation, les Algérois ont paru partagés sur la suite à donner au mouvement. Certains se sont montrés déterminés à continuer, d'autres se sont prononcés en faveur du dialogue ou de nouveaux modes d'action.
Convergence de vues entre Washington et le Caire sur la crise libyenne. Selon la Maison-Blanche, les présidents Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi rejettent toute exploitation étrangère de ce dossier. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans un entretien téléphonique jeudi, les leaders américains et égyptiens ont exhorté les partis en guerre en Libye à prendre des mesures urgentes pour résoudre le conflit. Leur conversation est intervenue quelques heures seulement après que le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite en Tunisie, a annoncé son intention d'envoyer des troupes pour appuyer le gouvernement libyen d'Union nationale, le GNA, reconnu par la communauté internationale. Le GNA fait face à l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle la partie orientale du pays. Ce dernier bénéficie du soutien de la Russie, de l'Égypte, des Émirats arabes unis et s'est entretenu au téléphone en début de mois avec le président Donald Trump. Le maréchal Haftar affirme que sa mission est de débarrasser la Libye des milices extrémistes soutenues par les frères musulmans, le Qatar et la Turquie.
Des ONG tunisiennes dénoncent la détention du journaliste marocain Omar Radi par les autorités marocaines pour avoir critiqué sur Twitter une décision de justice au Maroc. Monsieur Radi a été placé jeudi en détention après avoir été entendu par la police judiciaire. Selon son avocat Saïd Benhamani, le journaliste est poursuivi pour un tweet publié en avril fustigeant le verdict d'un magistrat contre des membres du mouvement de contestation sociale au Maroc en 2016 et 2017.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Iran ce vendredi pour dénoncer l'emprisonnement de deux universitaires depuis plus de 6 mois. Le point avec Lionel Gaïma.
La France a rappelé à l'ambassadeur iranien son exigence que Fariba Adelkar et Roland Marshall soient libérés sans délai et que les autorités iraniennes fassent preuve d'une totale transparence sur leur situation. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay se dit extrêmement préoccupé sur la situation de Madame Fariba Adelkar qui observe une grève de la faim. Paris a aussi réitéré sa demande d'accès consulaire jusqu'ici refusée. Une universitaire australienne, spécialiste du Moyen-Orient, Kylie Moore, Gilbert a également débuté une grève de la faim après 15 mois d'emprisonnement. Les deux chercheuses sont accusées d'espionnage. Elles disent avoir été soumises à de la torture psychologique et à de nombreuses violations de leurs droits humains fondamentaux. Quant à Roland Marshall, spécialiste de la Corne de l'Afrique et chercheur au CERI, il est détenu en Iran depuis juin. Il est accusé de collusion contre la sécurité nationale. Le 10 décembre, le président français Emmanuel Macron avait déjà réclamé la libération sans délai de deux chercheurs français dénonçant une situation intolérable.
La Russie, la Chine et l'Iran ont débuté des exercices navals conjoints dans l'océan Indien et le golfe d'Oman. Ces entraînements de 4 jours visent à montrer que l'Iran ne peut être isolé, a déclaré la marine iranienne. Les précisions avec Irénée Herman-Ongbo.
Le message de ces exercices est la paix, l'amitié et la sécurité à travers la coopération et l'unité. Leur effet sera de montrer que l'Iran ne peut être isolé, a déclaré le contre-amiral Gholam Reza Tahani à la télévision d'État. M. Tahani a aussi indiqué que les manœuvres auxquelles participent à la fois la marine iranienne et les gardiens de la révolution comprendraient le sauvetage de navires en feu ou en proie à un assaut de pirates ainsi qu'à des exercices de tir. L'objectif est de renforcer la sécurité du commerce maritime international, de combattre la piraterie et le terrorisme et de partager informations et expériences, a-t-il précisé. Ces manœuvres surviennent dans une période de tension accrue dans le Golfe depuis le retrait de Washington en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de sanctions américaines qui asphyxient l'économie de la République islamique.
Par ailleurs, la Russie a annoncé la mise en service de ses premiers missiles hypersoniques avant-garde. Ce système fait partie d'une nouvelle génération de missiles capables, selon Moscou, d'atteindre une cible quasiment partout dans le monde et de surpasser n'importe quel bouclier antimissile existant. Les Philippines ont interdit d'entrer dans le pays 2 sénateurs américains et menacé d'imposer l'obligation de visa aux visiteurs américains si Washington applique des sanctions contre des responsables philippins, a annoncé la présidence. Les sénateurs Richard Durbin et Patrick Leahy ont été interdits d'entrer aux Philippines après avoir introduit dans le budget américain pour l'année 2020 une disposition visant à empêcher d'entrer aux États-Unis les responsables impliqués dans l'emprisonnement de l'opposante philippine Leila de Lima. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Présent l'actualité économique, c'est dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La compagnie d'électricité nationale zambienne va augmenter les prix pour les clients résidentiels et commerciaux à partir de janvier 2020, alors que le pays cherche à attirer des investissements dans la production d'électricité. L'Office zambien de régulation de l'énergie affirme avoir autorisé ZESCO à augmenter de plus de 200% les tarifs de l'électricité pour les clients résidentiels les moins consommateurs. La nouvelle mesure n'affectera pas les sociétés minières mondiales. ZESCO, confronté à de graves problèmes financiers, a besoin de revenus pour couvrir ses coûts d'exploitation. L'ancienne PDG de la compagnie publique éthiopienne d'électricité et 49 autres personnes ont été inculpées pour corruption. Celle-ci est en lien avec un projet de défrichement d'une forêt au sujet du projet de grand barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, le principal projet hydroélectrique du pays, a rapporté l'agence de presse officielle ENA. Madame Azem Asnak avait été poussée à démissionner de son poste en 2018 à cause des accusations de corruption et de mauvaise gestion concernant différents projets énergétiques programmés en Éthiopie. Pour terminer, la société nigériane productrice de gaz naturel liquéfié a signé un contrat d'investissement pour son unité de traitement du train 7 ou locomotive à gaz à Abuja. L'accord devrait augmenter la production de gaz naturel liquéfié du Nigeria de 35%, soit 30 millions de tonnes par an.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nathalie.
Alors qu'est-ce que vous nous proposez ce soir?
D'abord du football féminin Nathalie, précisément au Niger.
Alors justement, j'ai vu que les filles dribblent les interdits pour jouer au football.
Tout à fait, les jeunes nigériennes doivent braver préjugés et clichés si elles veulent faire du foot. La raison est simple, le Niger est un pays majoritairement musulman. Il ne faut pas qu'une fille sorte dans une tenue qui fera ressortir des parties de son corps, notamment les jambes. Conséquence, le football féminin n'est pas permis par l'islam, selon certains dignitaires religieux. La religion est vraiment un frein, se lamente Ali Mamadou, le sélectionneur national. En revanche, les jeunes filles l'assurent. La pratique du football n'est pas incompatible avec la religion. Je fais mes 5 premières quotidiennes, souligne Aïchatou Mohamed, 16 ans. Je suis tombée amoureuse du foot toute petite quand je jouais avec les garçons du quartier. Des curieux m'applaudissent même quand je dribble les garçons, explique Aïchatou.
Extraordinaire le courage de ces filles, n'est-ce pas? Direction maintenant vers le pays de la reine Elisabeth II.
Le Royaume-Uni, Nathalie, pour parler de la Première Ligue, le championnat très lucratif. Jeudi, c'était le fameux Boxing Day, avec sur l'affiche 10 matchs. Eh bien, Liverpool de Sadio Mané et Mo Salah a creusé encore l'écart en allant gagner chez son dauphin Leicester 4-0 pour la 19e journée du championnat. Tout juste sacré champion du monde des clubs au Qatar, les Reds ont relégué leur plus proche poursuivant 13 points à mi-saison. Les hommes de Jürgen Klopp se sont livrés à ce qu'il faut bien appeler une œuvre de démolition d'une équipe réputée pour la solidité de son jeu et surtout de sa défense à 4. La meilleure d'Angleterre avant ce match à égalité avec Liverpool. Amazon Prime a diffusé toutes les rencontres. Le géant du commerce en ligne entend révolutionner en douceur le paysage téléviseur du foot anglais.
On passe à la NBA avant de se quitter.
L'actualité dominante, c'est le retour gagnant pour Luka Doncic avec les Mavericks face aux Spurs. Absent depuis 4 matchs sur blessure, Doncic a effectué jeudi un retour convaincant avec les Dallas Mavericks, vainqueurs des San Antonio Spurs, 102-98. À Detroit, les Pistons ont enrayé une spirale de 5 défaites en corrigeant les Wizards de Washington, 132-102. À New York, Julius Randle a aligné 5 paniers primés, un record personnel pour un total de 33 points qui a mené les Knicks à la victoire 94-82 contre les Brooklyn Nets dans un derby au Barclays Center. Dans le match entre Utah et Portland, le Jazz a eu le dernier mot 121-115 grâce notamment à Donovan Mitchell qui a marqué 28 de ses 35 points en seconde période. Enfin, les Minnesota Timberwolves ont mis un terme à une longue période de disette, 11 défaites en s'imposant contre les Kings de Sacramento. Pour beaucoup plus suspense, c'est après 2 prolongations, 105 à 104.
Merci beaucoup Eric pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Suite au Niger d'une grève de 48 heures entamée hier dans le secteur de la justice, les magistrats entendent protester contre la récente révision du statut de la magistrature pour ouvrir l'accès à la fonction de juge à plus de citoyens. Un reportage de notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
Beaucoup d'usagers des services de justice étaient désabusés jeudi matin au tribunal de Niamey où presque tout était à l'arrêt.
Je viens juste de rentrer pour pouvoir avoir une autorisation pour aller voir un ami qui a été arrêté. On me dit que les magistrats sont en grève et il faut le lundi. Et moi, j'ai vraiment voulu le voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment décevant.
J'étais venu pour mon nationalité là. Et puis, on m'a dit qu'il y aura un grève pour les magistrats. Vraiment, ça m'a fait retarder vraiment un peu en arrière parce que moi, je voudrais rentrer à l'OMI d'ici deux jours. Donc, vraiment, je suis mécontent, vraiment. Vraiment, je suis mécontent de cela.
Par ce mouvement, les magistrats entendent faire revenir le gouvernement sur l'adoption par le Parlement d'une modification du statut de la magistrature nigérienne. Yahaya Doubou, secrétaire général adjoint du syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN.
C'est dans la rue qu'on a appris que notre statut est en train d'être modifié. Le ministère de la Justice avait inséré dans le projet un terme qui est très flou pour être recruté dans une fonction publique, le terme certificat. Un État qui se dit responsable ne peut pas recruter un fonctionnaire du haut niveau qu'un magistrat sur la base d'un certificat. Dans tous les textes de la sous-région, c'est la maîtrise ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Et nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays où on a besoin d'une justice de qualité, que les gouvernants, en tout cas, puissent faire des recrutements déguisés pour avoir des juges payables et corvéables. La grève, elle est largement suivie à plus de 100%, puisque même ceux qui ne sont pas magistrats au tribunal nous soutiennent.
Pour le garde des Sceaux, cette modification du statut n'est que justice rendue. Mourou Amadou.
Ça va désormais permettre à tous les Nigériens, titulaires de la maîtrise ou du master 1, de pouvoir concourir pour accéder à l'école de formation judiciaire du Niger pour obtenir le diplôme de magistrat. Ceci n'est que justice, ceci n'est qu'équité, parce que les deux premières promotions de l'FJN l'ont été sur la base du Master 1. Entre-temps, était intervenue une loi de 2018 qui avait élevé, si vous voulez, le niveau pour concourir à un diplôme de troisième cycle, ce qui pour nous est inacceptable.
Sur le mouvement de grève, le ministre de la Justice estime que vu son caractère illégal, le gouvernement envisage de prendre les mesures pour que les magistrats eux-mêmes respectent la loi. La modification étant adoptée par l'Assemblée nationale, il reste la promulgation de la loi par le président de la République. Le syndicat des magistrats plaide auprès de celui-ci parallèlement au mouvement de grève pour qu'il renvoie le texte en seconde lecture au Parlement. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey. Pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le procureur de la République a détaillé jeudi à Abidjan les chefs d'accusation retenus contre Guillaume Soro, l'ex-chef rebelle et candidat à la présidentielle de 2020. Selon la justice, il préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir, des accusations contestées par la défense. Notre correspondant Siriki Barrault a recueilli les réactions d'habitants de Boaké, ex-fief de la rébellion que dirigeait Guillaume Soro.
Moi, c'est pour Nidalee, par rapport à cette histoire de Soro, tel que nos vieux parents le disent, quand on est plus précis dans la musique, on danse mal. Donc, moi, je trouve que Soro, depuis qu'il est en train de prendre la scène, c'est un chemin qui va le mettre à la dérive. Puisque nous, on ne voit pas ce qu'il peut nous montrer encore, et puis ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici, que ce gouvernement n'a pas encore réalisé. C'est lui qui, au temps des rébellions, c'est lui qui nous a toujours dit que c'est Alassane Ouattara qui est leur mentor. Alors, il connaît cet homme-là, il sait de quoi il est capable. Moi, je ne vois pas ce qu'il peut réaliser en Côte d'Ivoire ici. par rapport à ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je trouve qu'il a des mauvais conseillers à court de lui. Ils sont en train de pousser dans un trou pour ne pas s'en sortir.
Pendant 5 ans, le pays avance et il cherche à revenir en arrière. C'est même pas joli à voir, c'est honte pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Si il pouvait se retourner en famille, je crois que c'est mieux. C'est trop difficile, quoi. C'est pas joli à voir, quoi. C'est très bien. On en est marre de la guerre. Chaque fois la guerre, on ne peut pas chercher à se réconcilier normalement. Les trahisons, on ne peut pas arrêter. C'est pas joli à voir. La Côte d'Ivoire est trop évoluée pour ça, quoi.
Sincèrement, M. Sourouk Bafoury Guillaume ne pouvait pas rendre sa démission, comme on appelle, à l'Assemblée nationale, qui a été vraiment une grave erreur de sa part. Je dirais aussi qu'il s'est pressé parce que d'avis, tout le monde pensait que après la fin du mandat du président Ouattara, c'est lui qui sera son successeur. Il a été vraiment un peu pressé.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Alors que la planète se réchauffe, les conditions météorologiques changent de façon drastique dans le monde entier. L'Afrique a fortement ressenti les effets de ces changements au cours de l'année 2019. Lorsqu'elle a été touchée par des cyclones, des sécheresses et des pluies diluviennes qui ont affecté les récoltes. Sur un compte-rendu de Raël Omboer à Nairobi, Dilidiko relate les défis climatiques auxquels le continent va devoir faire face.
David Kemboi, un agriculteur kényan de 62 ans, prit les tiges de maïs séchées dans sa ferme de 21 hectares située dans le comté de Trans-Nouya. Il transforme ce qui aurait pu être une récolte abondante en ensilage pour nourrir ses troupeaux de bovins. David explique que les fortes pluies ayant touché de nombreuses parties de l'Afrique de l'Est ont donné lieu à de maigres récoltes.
Au moment où nos cultures poussaient, nous espérions d'excellents rendements. Nous avions investi massivement dans tout ce que nous cultivons. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir une récolte satisfaisante, ce qui signifie que beaucoup d'argent a été jeté par la fenêtre.
Des millions de personnes ont été forcées de se déplacer suite aux multiples inondations qui ont affecté cette année la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Ces inondations ont causé des centaines de morts. En novembre, le Soudan du Sud a déclaré l'état d'urgence dans 27 zones, avec près d'un million de personnes touchées. Selon l'agence météorologique kényane, les pluies sont causées par une irrégularité appelée dipôle de l'océan Indien, plus connue sous le nom d'El Niño. Il s'agit d'une oscillation de la température de la surface de la mer qui apporte des conditions météorologiques extrêmes aux pays voisins de l'océan Indien. Bernard Chanzu est directeur adjoint de l'agence météorologique kényane. Il indique que presque tout le Kenya a reçu cette année des pluies nettement supérieures à la moyenne.
Dans certaines stations météorologiques, à l'exemple de Meru, nous avons enregistré des seuils de précipitation dépassant les 200% la moyenne à long terme de la région.
Avec les niveaux de dioxyde de carbone atteignant de nouveaux sommets, le Dr Richa, un scientifique spécialisé dans la recherche sur le climat et l'agriculture, déclare que les Africains doivent désormais s'attendre à plus de réactions météorologiques extrêmes.
Les variations climatiques associées à ces événements extrêmes de sécheresse et d'inondations seront de plus en plus fréquentes et intenses dans l'avenir. Cela signifie que différents secteurs seront affectés, la santé, l'agriculture, mais également l'énergie.
Selon des experts comme le Dr Richa, la solution pour David Kemboi et d'autres agriculteurs africains serait de s'adapter au changement climatique. Il estime que cela ne peut se faire sans l'aide du gouvernement et des agences spécialisées qui doivent accompagner les fermiers dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles telles que les méthodes d'irrigation alternative et les techniques de stockage efficaces de l'eau.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
En 2019, les innovateurs africains ont continué de progresser avec toutes sortes de solutions aux problèmes de développement. Un jeune Malien a notamment créé une application spéciale à commande vocale que les entrepreneurs utilisent pour commercialiser leurs produits et services auprès de clients qui ne savent pas lire. Davantage de précisions sur cette invention avec Arzuma Compaoré.
Comme beaucoup d'autres entrepreneurs analphabètes au Mali, Ada Tembili a trouvé une nouvelle façon de faire des affaires via les médias sociaux et cela grâce à l'application vocale Lenali. Ada Tembili, vendeuse de fruits et légumes.
Voici vos beaux fruits. Nous avons de belles oranges mûres, des pommes, des bananes, sans oublier de mentionner les ananas. Aujourd'hui, nous avons presque tout pour vous satisfaire. Pour nous trouver, allez au troisième pont et vous me verrez.
Tembili a déclaré que ses revenus ont triplé depuis qu'elle a commencé à utiliser l'application qui, tout comme Facebook, offre aux utilisateurs des options telles que les j'aime et les publications. Son interface est disponible dans différentes langues locales.
Je l'ai installé moi-même parce que l'Enali a le Bambara, le Soninké et presque toutes les langues. Je ne suis pas allé à l'école, donc s'il y a du Bambara, je suis évidemment intéressé.
Goïta est alphabétisé, mais beaucoup de gens qui l'essaient de joindre ne le sont pas. Il affirme que l'Enali est devenu populaire auprès des jeunes et que ses ventes de motos ont augmenté de 5% cette année, car désormais il peut promouvoir ses produits et partager des informations avec des clients qui ne savent pas lire.
J'utilise l'Enali, vraiment mon chiffre d'affaires a augmenté à 5%. Maintenant je peux faire une vente journalière à 20 motos comme ça. Mais avant, ça me faisait la peine de faire même 5 motos par jour.
L'Enali a été développé par Mamadou Gouro Sidibé, un ingénieur informatique du Mali. Il a dû quitter une carrière prometteuse en France pour travailler sur ce qu'il dit être le seul réseau vocal au monde disponible dans différentes langues ouest-africaines telles que le Bambara et le Soninké qui sont parlées au Mali.
C'est-à-dire que l'Enali va être un réseau social, donc vocal en langue locale. Donc, parce qu'il fallait permettre aux personnes comme lui déjà de comprendre ce qu'ils font quand ils essaient d'installer. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes installent, se font installer des outils parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait des guides vocaux, des instructions vocales en langue locale. Donc, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils font. Et jusqu'à arriver à un profil vocal où, si on sait écrire, on met de façon écrite son profil, mais si on ne sait pas le faire, on les dit et puis l'application enregistre. Ensuite, on peut faire des publications vocales, des commentaires vocaux et vraiment tout peut se faire dans l'application sans jamais avoir besoin d'écrire un seul mot.
Selon les Nations Unies, seulement 33% des Maliens sont alphabétisés. L'application gratuite, disponible depuis janvier 2017, compte aujourd'hui 73 500 utilisateurs, a déclaré Sidibé et devrait devenir rentable lorsqu'elle atteindra 200 000 utilisateurs.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïma et Cornelius Tiner. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Restez à l'écoute de VOA Afrique pour un rappel des grands titres de l'actualité dans le monde avec Henri Francisque. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.